Bonjour tout le monde, ici Eugénie Francoeur, ex-journaliste, directrice générale d'une petite fondation et curieuse de tout ce qui parle et réfléchit sur la santé, les façons de mieux vivre dans son corps, dans sa tête et dans son cœur. Je vous souhaite la bienvenue sur la balado « Ma santé pour la vie ». Je vous propose des rencontres intimes, surprenantes et éclairantes avec des personnes qui pensent la santé autrement. Ce que je souhaite à travers cette balado, c'est de vous partager ce qui m'allume en espérant que ça puisse aussi vous faire du bien à vous ou peut-être à un proche. Je crois profondément qu'il est possible de vieillir en restant actif et alerte. J'espère que ma croyance et mon enthousiasme se rendront jusqu'à vous. Je vous invite à vous installer confortablement, à écouter et à vous laisser surprendre. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode du balado « Ma santé pour la vie ». Aujourd'hui, je vous propose un tour du monde olfactif, un tour du monde rempli de mystères et de parfums. Parce que oui, les odeurs demeurent empreintes d'une aura de mystère. Pourquoi sommes-nous attirés par certaines odeurs alors que d'autres nous agressent? C'est la parfumeur indépendante Isabelle Michaud qui nous guidera tout au long de cette jolie route parfumée. Je l'ai entendu un jour à la radio parler du vétiver, une odeur qui me fait profondément vibrer, sans trop comprendre pourquoi. Curieuse, j'ai eu envie d'en savoir plus sur elle et sur son métier de parfumeur. Et comme vous l'entendrez, c'est à travers ses parfums qu'Isabelle Michaud se dévoile. Isabelle s'intéresse aux parfums depuis qu'elle est toute jeune, sans trop savoir d'où ça lui vient. Sur son site web, on peut lire « Elle entreprend alors, bien à son insu, la phase la plus importante de son projet, soit l'accumulation d'expériences multiples, d'aventures insolites, de grands moments d'oisivité, d'égarements merveilleux, tous tributaires de cet océan de vécu dans lequel elle puiserait plus tard l'inspiration pour ses parfums. » Après avoir exploré plusieurs avenues professionnelles, Isabelle décide de revenir à son premier amour, celui des odeurs. Elle se retrouve à Versailles, en France, à l'Institut supérieur international de la parfumerie, afin d'acquérir tout le savoir-faire qui lui permettra de lancer sa propre ligne de parfums, Mon Sillage. J'ai été fascinée par les récits olfactifs d'Isabelle. Installez-vous confortablement, fermez les yeux si vous le pouvez, et laissez-vous transporter autour du monde. Bonjour Isabelle, merci d'avoir accepté mon invitation.
Merci à vous, ça me fait plaisir d'être parmi vous.
J'ai tellement de questions à vous poser parce que là, j'arrive, j'embarque dans un univers que je connais pas, qui est rempli de mystères, qui est rempli de possibilités. Je pense que la première question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui vous a amené à la parfumerie, à devenir une parfumeure?
Ben, ça a été un long cheminement, je dirais, parce que c'est pas vraiment un métier qu'on connaît bien en Amérique du Nord, celui de parfumeur. Moi-même, je ne savais pas que ça existait avant très, très longtemps. Mais par contre, j'ai toujours eu l'amour des odeurs dès que j'ai pu là pouvoir sentir. Et puis, dès que j'étais vers l'âge de 7, 8, 9 ans, là, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu plus fort aux parfums. J'avais une collection de fragrances.
Déjà 7-8 ans.
Oui, et puis ça s'est amplifié là, entre 10 et 13 ans. Et puis je collectionnais les échantillons, j'allais dans les grands magasins à l'époque où ils donnaient encore des échantillons, même qu'il y en avait qui étaient distribués de porte en porte. Là, mon frère était camelot. Et puis, il y avait eu un genre de gros lot là, de différents parfums, puis ils distribuaient ça aux portes. Donc là, je mettais fait un petit un petit lot d'échantillons. Entre autres, il y avait Diva, il y avait le parfum Beverly Hills. Fait que c'était la belle époque là, des échantillons. Mais mon amour des parfums a commencé comme ça, tout naturellement. J'avais une aversion aux mauvaises odeurs, puis j'adorais les bonnes odeurs là, puis c'est pas, ça prenait une place importante dans la vie quand même.
Et ça, c'était à 10-12 ans. Donc, la passion était là très jeune. J'imagine que ça n'a pas été une ligne droite, que votre chemin a été parsemé d'essayer de faire d'autres choses.
Oui,
Qu'est-ce qui vous a fait finalement aboutir au métier de parfumeur?
Je pense que c'est, je suis allée au bout là, de ce que la société là, me présentait là, dans les standards, disons, là, des métiers qu'on nous présente là, à différents moments dans notre éducation. Et puis, j'ai jamais trouvé rien vraiment là, qui allait au bout de mes passions. Et puis, c'est, tu sais, après avoir eu quelques... Comment dirais-je, j'ai travaillé, j'ai étudié en criminologie déjà, ça m'a amené à faire certaines études. J'aimais beaucoup la psychologie. Finalement, j'ai jamais travaillé dans le milieu carcéral parce que les études étaient plus intéressantes que le milieu comme tel ou ce qu'on pouvait faire à l'intérieur des institutions. Et puis, ça m'a amené à faire une maîtrise en traduction, un peu à tâtons, parce que moi, je suis née au Nouveau-Brunswick. Je suis née bilingue, si on veut, dans une famille francophone, mais quand on est dans un milieu anglophone, on apprend très vite. Donc, c'est devenu vraiment une langue seconde que je maîtrisais très bien. Et en cours de route, j'ai donné des cours d'anglais. Ça m'a amené à faire un peu de traduction. Et puis là, j'ai dit, ben, pourquoi pas pousser ça plus loin et aller me chercher des études là-dedans. Comme ça me venait un peu plus facilement. Et puis, ça, avec ce métier-là, j'ai abouti à Toronto pendant 7-8 ans. Là, j'ai travaillé dans les milieux corporatifs au niveau de la rédaction. J'étais rédactrice de cartes de souhait pendant plusieurs années. Donc, ça, c'était très créatif. Ça, c'était vraiment agréable. Et puis, après ça, j'ai été plus dans le monde corporatif de la traduction comme tel. Et puis là, j'ai comme atteint un mur là où là j'étais pas vraiment heureuse avec la direction là que ma vie prenait. Puis on dirait que ça me satisfaisait pas. J'avais besoin là d'avoir une idée, de faire valoir mes propres idées, ma propre créativité d'une certaine façon. Et j'ai commencé à faire des activités on the side là de mon travail pour un peu me divertir. Puis j'ai un cours de savonnerie une fin de semaine. On pourrait dire que cette fin de semaine-là a vraiment changé ma vie parce que à partir du moment où j'ai commencé à faire des savons, j'ai loué un espace pour vendre des savons parce que ça avait commencé à m'intéresser pas mal. Et puis, ça a comme stimulé tout mon côté entrepreneurial d'un certain côté parce que, oui, il y avait la création, mais là, d'avoir un kiosque, ça m'a poussé à développer une première marque. À connaître ma clientèle, à toucher à tout ce qui est emballage, parce que j'adore les beaux emballages. J'ai toujours été une emballeuse de cadeaux professionnels, si on veut, là, pour ma famille. C'est moi qui emballais tous les cadeaux lors des grandes fêtes. Et ça venait toucher à toutes sortes de choses que j'aimais. Et puis, à ce moment-là, quand j'ai fait cette première expérience-là d'entreprise, de création d'entreprise, ben là, ça m'a comme poussé à me dire, ah, ben, je suis peut-être capable de pousser ça encore plus loin. Et puis là, ben, mon amour des odeurs, c'est là que j'ai commencé à faire mes créations parfumées dans les savons. Puis, ça m'a poussé à vouloir apprendre à faire des parfums. Et là, j'ai cherché une école et j'ai trouvé à Versailles une école de parfumerie qui offrait un cours pour les étudiants étrangers. Et c'est là que j'ai fait le grand saut.
Ça doit être toute une expérience de se ramasser à Versailles avec dans un univers où la parfumerie fait partie de la vie d'une certaine façon. Ça a dû être un choc agréable.
Oui, c'est ma nouvelle vie qui commençait. Donc, c'était tellement palpitant de se retrouver dans un nouveau pays, une nouvelle ville avec des nouvelles études, tout un milieu à comprendre, des découvertes extraordinaires. Donc, ça a vraiment été là la meilleure chose que j'ai pas faite dans ma vie, là, de me retrouver et puis de vouloir apprendre vraiment, de savoir que j'avais trouvé ma raison d'être. Si on veut.
Isabelle, la première fois que je vous ai contactée, c'était parce que j'avais entendu que vous mettiez du vétiver dans vos parfums. Et pour une raison que je connais absolument pas, j'ai une attirance presque incontrôlée vers cette odeur-là. Est-ce qu'on sait pourquoi certaines odeurs nous attirent tant alors que d'autres nous répulsent?
Pas vraiment. C'est difficile de mettre le doigt sur pourquoi alors, on clique sur certaines odeurs plus que d'autres. C'est sûr qu'il y a un côté qui est culturel aux odeurs, les odeurs avec lesquelles on peut faire le ménage vont différer d'une culture à l'autre ou des odeurs de cuisine qui vont venir déclencher là, des belles sensations chez toi ou nos premiers parfums. C'est très culturel aussi. Il y a différents modes dans différents pays aussi qui accrochent les gens. Mais il y a aussi une partie innée pour certaines matières premières. Je partage votre amour du vétiver, donc certainement des atomes crochus à ce niveau-là ou des neurones similaires dans nos cerveaux olfactifs. Mais c'est très difficile. C'est vraiment ça le mystère de la parfumerie et des différentes matières premières et aussi la chimie qui se crée entre elles.
Isabelle, lorsqu'on parle du métier de parfumeur, de créer des parfums, est-ce qu'on parle d'un art, d'une science ou d'un mystère ou de l'intuition ou un peu de tout ça?
C'est vraiment un peu de tout ça. C'est sûr que de faire des études là-dedans, bon, on apprend toute l'histoire de la parfumerie, puis on part d'une base où il y a beaucoup de notions de techniques qui ont déjà été testées et approuvées. Donc, c'est sûr que la formation que j'ai reçue à Versailles m'a beaucoup aidée. Apprendre d'ailleurs l'histoire, mais aussi on travaillait des 8 heures en laboratoire pour explorer les différentes matières premières, autant naturelles de synthèse. Et sans cette formation-là, j'aurais pas eu tout le vocabulaire que nécessite là l'apprentissage des différentes matières premières qui sont très importantes en parfumerie moderne. Oui, il y a une part d'apprentissage, mais on en parlait tantôt, nos attirances personnelles pour certaines notes, nos sensibilités pour certains accords, certains styles de parfum, mais ça, c'est tout à fait personnel. Et c'est beaucoup de... C'est vraiment suivre son pif, faire de la parfumerie. Donc, on passe d'un essai à un autre en le testant sur notre nez. Donc, si c'est agréable pour nous, eh bien, c'est sûr qu'on va avancer dans le travail de la création. Si ça ne l'est pas, ben là, on essaye autre chose, mais c'est vraiment notre nez qui décide. Donc, chaque parfumeur a une vision très différente de la parfumerie parce que ça passe par son être profond, si on veut.
Donc, c'est une création à partir de qui vous êtes, de vos goûts à vous.
Oui, ben surtout que moi, je travaille je suis une parfumeur indépendante, ce qui veut dire que je crée ma propre gamme de parfums selon ma vision à moi. Si je travaillais pour une grande société, où là, on m'imposait un style ou un client qui veut tel type de parfum ou dans telle famille de parfums, ben là, il faudrait que je m'en tienne plus au style de mon époque, aux accords clés ou plus populaires qui existent aujourd'hui. Donc, je serais plus limitée dans ce que je peux créer. Mais étant donné que je crée mes propres parfums, ben là, je peux vraiment puiser au fond de moi dans mes goûts, dans ce que j'ai le goût d'essayer aussi. Je peux prendre plus de risques, quitte à ce que ça soit moins populaire, mais au moins ça part de moi si on veut.
Comment est-ce qu'on... Là, on parle à une néophyte. Je suis complètement néophyte et probablement qu'une partie des gens qui nous écoutent n'ont jamais fait de parfum. Ça part comment? Combien est-ce qu'il y a d'odeurs? C'est quoi le point de départ, le zéro?
Ben, le point de départ, c'est... C'est l'inspiration, c'est ce qu'on a le goût de créer, mais c'est aussi la corrélation qui existe en différentes notes. Donc, le point de départ, c'est de commencer avec 2-3 notes de parfum qui nous parlent et puis essayer de trouver l'équilibre dans ces notes-là au départ pour créer quelque chose qu'on aime. Et puis de partir de cette base-là pour ajouter des notes tranquillement, pour complexifier sa création. Ou le décomplexifier, parce que souvent, on retire des éléments là, qui, finalement, donnent pas grand-chose dans le parfum. Mais on commence des fois avec plusieurs notes qu'on pense qui vont raconter notre histoire. Et puis, finalement, ça donne quelque chose de complètement différent à travers les essais, les erreurs. Et puis, c'est plutôt complexe. Et puis, le plus dur, c'est dans le fond de finir son parfum parce qu'il y a tellement d'options possibles quand on travaille avec différentes notes. Il y a plusieurs directions possibles. Et puis, c'est très difficile de dire que c'est fini.
Quand est-ce que justement on le sait, que vous le savez, que OK, c'est ça?
Je pense que c'est quand j'ai vraiment fait le tour des options possibles, puis je reviens toujours un peu là autour des mêmes de la même itération de mes essais, que là je me dis bon ben je peux pas l'amener ailleurs, il me satisfait comme ça, j'aurais pu essayer autre chose, mais quand j'ai fait le tour là, de la question là, puis je reviens toujours au même que je préfère, ben là je fais le choix. Ça peut prendre jusqu'à entre 6 mois et 1 an là, pour vraiment dire que c'est on met un point final.
Là. OK, wow. Fait qu'à partir du moment où vous partez, vous avez l'idée de faire un nouveau parfum, de créer quelque chose de nouveau, ça peut prendre jusqu'à 1 an.
Oui, des fois plus, parce qu'on peut avoir une idée que là, on met dans une case dans notre cerveau, puis finalement, on reprend l'idée quelques années plus tard même. Ça dépend là des premiers essais, je dirais, parce que souvent quand on fait les premiers tests, on dit ah tiens cette note là avec cette note là, je vais voir qu'est-ce que ça fait. Si on est ébloui, ben là on va partir sur cette lancée là puis on va continuer. Si on est un peu découragé, ah c'est pas ce que je pensais que ça serait, ben mais on garde l'idée en tête, ben là on va peut-être traîner ça sur plusieurs années là pour jusqu'à ce qu'on mette le doigt là sur le bon équilibre ou les bons ingrédients là ensemble.
En moyenne, dans un parfum, j'imagine que chaque parfum est différent là aussi, il y a combien de notes d'odeurs?
Ça a varié beaucoup dans l'histoire. Avant, il y avait des parfums qui avaient jusqu'à une centaine de notes à l'intérieur. C'était des parfums beaucoup plus complexes, beaucoup plus lourds, beaucoup plus capiteux, si on veut. La tendance plus moderne des dernières vingtaine d'années, c'est de réduire, de rendre ça beaucoup plus minimaliste. Donc, dans mon cas, ça attend 25 et 50 matières premières. Il y en a que c'est moins, il y en a que c'est rarement plus parce que je commençais à doser une cinquantaine de matières premières, c'est quand même assez complexe, là, puis c'est difficile de mettre le doigt sur le problème, là, à ce moment-là.
Vos matières premières, elles viennent d'où? Vous les trouvez où et vous les travaillez? De quelle façon? Est-ce que ça vient sous forme de plantes, d'huile essentielle, d'extraits?
Bien, c'est sûr qu'on travaille avec une matière qui est extraite déjà. Donc, il y a deux types de matières premières. Il y a les matières premières naturelles et il y a les matières premières de synthèse. Donc, j'ai différents fournisseurs pour chacune d'elles, si on veut. Puis, il y a des pays qui sont spécialisés plus dans les roses, si on veut, parce que c'est tout géographique, tout ça, ça prend la planète entière là pour créer un parfum, parce que ça prend des climats différents, des espèces différentes et des méthodes d'extraction différentes aussi. Donc, je dirais que pour mes matières premières naturelles, c'est ça qui est plus complexe, parce qu'il y a différents fournisseurs, il y a différentes qualités, et c'est ça, je travaille avec 2, 3, 4 fournisseurs de matières premières. Et pour les molécules de synthèse, ça prend des connexions avec des grands laboratoires qui fabriquent des matières premières parfumées de synthèse. Et puis, j'ai quelques laboratoires où je prends des matières premières aussi.
C'est beau, comment vous dites, ça prend la planète entière pour créer un parfum. C'est universel. Pour ma propre curiosité, le vétiver, lui, vient d'où?
D'Haïti.
Oh, OK.
Le premier producteur mondial de vétiver, c'est en Haïti. C'est une grande herbe avec des grandes, grandes, grandes racines. Et puis, c'est de ces racines-là qu'on extrait l'huile essentielle. Mais il y a aussi un vétiver indien, mais ça donne deux rendus complètement différents de la même note. Okay.
Maintenant, on va aller plus vers votre entreprise, les parfums que vous créez. Votre entreprise s'appelle, votre parfumerie s'appelle Monsillage. Pourquoi ce nom? Très joli par ailleurs.
Merci beaucoup. Le sillage du parfum, c'est le petit nuage qui nous suit quand on se parfume, qui fait qu'on peut sentir la présence de quelqu'un sans vraiment savoir qu'il est arrivé, disons. Ben, on va savoir qu'il est arrivé par son parfum, mais sans l'avoir nécessairement vu. Donc, c'est ce qui précède quelqu'un ou qui le succède. Donc, c'est le un peu c'est l'aura là qu'un parfum va dégager. Et j'ai voulu rattacher ça un peu à mon histoire. Et puis, j'ai voulu m'inspirer de ma vie pour créer le fil directeur de ma marque. Et donc, le sillage représente un peu par où je suis passée, ce que j'ai vécu. Donc, mon sillage, c'est un peu mon parcours de vie exprimé en parfum. Et quand la personne le porte, ben, va l'amener ailleurs, va le faire vivre d'autres expériences. Donc, la personne, ça devient son sillage aussi, mon sillage. C'est universel, si on veut. Ça permettait d'avoir un fil directeur pour ma marque, qui sont mes voyages, mes rencontres, mes états d'âme, mes coups de cœur.
D'ailleurs, c'est là que j'arrive au nom de vos parfums. Vous avez des parfums au nom évocateur. Je pense que dans votre démarche, par exemple, je prends le pays d'Ogon. C'est quoi l'histoire de ce pays-là? J'aimerais ça que vous nous racontiez les belles histoires derrière les noms de vos parfums.
Ben, le pays d'Ogon, c'est une région d'Afrique de l'Ouest, au Mali. Et ça suit un peu, fait partie des voyages que j'ai fait dans la jeune vingtaine. En Afrique de l'Ouest pendant 5 mois. Et on dirait que je voulais créer un parfum inspiré de l'Afrique parce que ça m'a beaucoup marqué. On dirait que le pays d'Ogon encapsulait tout ce qui est qui représente l'Afrique pour moi au niveau du choc que j'ai eu quand j'ai vu la région, la falaise de Bandiagara qui vient couper un peu le désert du Sahel. Et puis, ça a apporté un climat qui est un petit peu différent, qui amène un peu d'humidité à travers cette sécheresse-là. Et puis, ça m'a marqué d'ailleurs. Et aussi, il y avait le peuple des Dogons qui vivent dans la falaise. Et il y a toujours un marché au pied de la falaise. Et puis, les femmes m'ont beaucoup marqué avec les pagnes à l'indigo. Quelque chose de très, très précis. Et puis, toutes les sculptures de bois, le travail du bois, le travail du cuir, et toute la zone aride de l'Afrique qui fait que ça crée un genre d'atmosphère très spéciale olfactivement, là, mais aussi dans mes souvenirs.
Ça fait voyager de vous écouter comme ça. Ça donne une autre... grandeur, un autre aspect du parfum. Maintenant, il y en a un qui s'appelle Oiseau. Celui-là, c'est quoi son histoire?
Ben, Oiseau, c'est
je me suis Oiseau dit, avec un W.
Un W-A-Z-O. Celui-là, c'est un parfum que j'ai créé pour un... C'est un parfum sur mesure que j'ai fait. Il m'arrive de faire des parfums sur mesure, de moins en moins, mais ce bijoutier-là qui se situe à Percé, il s'appelle Martin Oiseau parce que c'est son nom de marque, Oiseau. Et lui, c'est un autochtone de la Gaspésie. Et il y a des souvenirs olfactifs qui sont fascinants parce que son père était trappeur. Et chez lui, il y avait toutes sortes de produits, de la trappe, des fourrures, mais aussi des glandes de castor qui sont un ingrédient en parfumerie qu'on appelle le castoreum, qui était utilisé autrefois comme fixatif dans les parfums en France. Donc, les chasseurs récoltaient leur fourrure, leur peau, mais en même temps gardaient cet aspect-là de l'animal, les glandes apparemment qui donnent l'huile pour imperméabiliser leur fourrure là, et qui a une odeur un peu d'olive noire. Et donc, ces glandes-là étaient récoltées pour les donner à l'industrie de la parfumerie française. Et dans ses souvenirs olfactifs, il y a cette note-là. Il y a aussi les forêts gaspésiennes font partie aussi de son histoire. Lui a été un agent forestier aussi avant de devenir bijoutier. Donc, la nature elle-même, le peuplier baumier, est un souvenir qui est très, très précis pour lui aussi. Et son type de parfum préféré, c'était les parfums orientaux, dits orientaux, avec très vanillé, épicé et avec des résines qui créent un peu le côté ambré de ce parfum-là. Donc, j'ai travaillé avec ses souvenirs olfactifs à lui pour créer ce parfum-là qui s'appelle Oiseau, qui est un petit peu hors de ma collection, mais que je vends quand même sur mon site, là.
Belle histoire, j'imagine. Ça doit être une belle aventure d'aller se faire son propre parfum.
Oui, ben c'est ça. Créer un parfum pour quelqu'un, c'est très, très long. Aussi, c'est développer un vocabulaire commun pour parler des notes de la même façon, parce qu'il y en a qui vont dire que une note florale est sucrée ou une note sucrée est florale. Donc, c'est difficile d'avoir, de trouver là, cette équivalence de notes pour enfin créer quelque chose qui va dans la bonne direction. Donc, ça prend énormément de temps. Puis les gens, souvent, veulent qu'on retire un parfum qui a été discontinué ou qui leur... ils veulent retrouver des odeurs qui ont été créées déjà. Mais ça, c'est plus difficile, c'est de mettre les pieds dans les bottes de quelqu'un d'autre pour partir d'une odeur qui était un peu un souvenir olfactif. C'est plus intéressant de partir de zéro et de construire que d'essayer de recréer certains parfums là, qui n'existent plus.
Oui, j'imagine que comme créatrice aussi, c'est plus le processus est drôlement plus intéressant que d'essayer d'imiter ce qui a déjà existé.
C'est ça, exactement.
Vous parlez beaucoup de notes. Tantôt, vous parliez de notes de fond, notes de tête. Bon, pour vous, c'est clair tout ça. Pour moi, ça ne l'est pas du tout. Combien il y a de notes différentes dans un parfum? C'est quoi une note de tête, une note de fond? Puis quelles sont les autres variétés de notes dans un parfum?
Les outils du parfumeur sont les matières premières. Et notre façon de classer les matières premières, c'est de les classer selon leur volatilité. Donc, les notes plus volatiles sont les premières qui nous montent au nez, si on veut, dans un parfum, qu'on appelle les notes de tête. Elles sont plus volatiles, elles sont en tête du parfum. Et plus ça va, il y a les notes de cœur. Bon, par exemple, les notes de tête, les notes un peu plus légères, on va dire. Plus volatiles, plus légères. Donc, les agrumes, les notes fraîches, les notes aromatiques. Et puis, les notes de cœur sont principalement les notes florales. Donc, les notes de cœur vont durer plus longtemps dans le parfum et vont être à leur plus beau, si on veut, à mi-chemin du parfum. Mais donne la personnalité au parfum, c'est vraiment les notes de cœur. Donc, toutes les notes florales. Si on met une rose dans un parfum ou si on met un jasmin dans un parfum, ça va donner quelque chose de complètement différent et la chimie va être complètement différente avec tous les autres ingrédients. On peut pas dire la même chose une note d'agrumes, si on veut. Là. C'est pas ça qui va changer la direction d'un parfum nécessairement. Et ensuite, encore plus tenaces sont les notes de fond. Et les notes de fond, c'est les notes principalement boisées, les notes sucrées, les notes épicées pour la plupart, les résines, les notes cuirées. Donc, c'est les notes qu'on va ressentir après plusieurs heures sur notre peau. Et donc, ça. C'est sûr que chaque peau est différente. Chaque chimie de peau est différente. Il y a des peaux qui vont tourner les parfums plus sucrés ou il y a des notes qui résonnent moins bien sur certains types de peau. Mais en général, dans un parfum, il y a des notes de tête, il y a des notes de cœur, il y a des notes de fond.
L'un de vos parfums, l'eau de céleri, celui-là, vous a fait connaître un peu partout dans ce grand univers du monde des parfums. C'est un parfum, une odeur pour laquelle vous avez remporté le prix Art and Olfaction Golden Pear en 2015.
Oui.
Pouvez-vous nous parler de ce parfum-là? Puis qu'est-ce que ça a représenté pour vous d'être reconnu mondialement par vos pairs, par cette récompense?
Ben c'est sûr que c'est un moment qui change une vie parce que avant ça j'avais quand même créé 4 parfums avant celui-là, 5 parfums avant celui-là et c'est vraiment une surprise totale premièrement, mais c'est j'ai suivi vraiment mon instinct sur celui-là parce que eau de céleri, c'est pas j'ai eu une vision d'un parfum vert, j'ai vu l'image du céleri, mais si je m'étais fiée à ce que les gens me disaient ou pensaient, j'aurais jamais sorti ce parfum-là parce que c'est pas l'idée romantique qu'on se fait du parfum, c'est même un légume plutôt ordinaire là dans la tête de plusieurs personnes. Mais moi, ce qui me fascinait, c'était le côté vert du céleri. Puis en parfumerie, à l'école, on sentait toutes sortes de notes. Puis souvent, il y avait une facette céleri, très vert. Puis ça sent craquant parce qu'on peut sentir les textures en parfumerie. C'est ça qui est fascinant à travers notre nez. On peut même sentir des textures quand c'est râpeux, quand c'est opulent, quand c'est rond, on peut tout sentir ça à travers le nez, comme quand on tient quelque chose sur le bout de nos doigts. Donc, on a les mêmes sensibilités au niveau de notre canal olfactif. Et ben, c'est ça, le côté fibreux du céleri. On peut ressentir ça à travers différentes notes. Donc, je me suis donné le défi de créer un parfum qui était très vert. Et puis, au fur et à mesure, j'ai construit ce parfum-là, mais c'était évident que je voulais l'appeler eau de céleri, mais en même temps, moi, j'ai une fascination probablement inconsciente pour le céleri parce que je suis allergique au céleri. Ça me fait des réactions là, très fortes. Et en quelque part, ben, c'était ma façon à moi là, de sublimer cette note-là qui m'est interdite maintenant. Donc, le côté vert, le côté craquant, le côté fibreux. Et je l'ai transformé. Oui, ça sent le céleri au départ, mais dans le temps, parce qu'on peut pas soutenir des notes de tête aussi longtemps, comme je vous ai expliqué tantôt, les notes de tête sont plus volatiles, et donc les notes vertes tombent dans ce côté volatile-là. Mais le côté fibreux est apporté par le vétiver, justement, qui vient chercher cette résonance-là à travers le parfum au complet. Donc, ça crée un genre de parfum vert chypré avec la note de vétiver et de patchouli aussi à l'intérieur.
Est-ce qu'il y a du céleri dans votre eau de céleri?
Il n'y a pas de céleri, non. C'est ça l'affaire. La note, il y a certaines notes, certaines huiles essentielles, quand elles passent par le processus de l'extraction, ben, c'est chauffé, hein, bien souvent. C'est comme si l'huile essentielle de céleri, ça sent le céleri cuit. Mais ce n'est pas cette facette-là du céleri que je voulais exprimer. C'était plutôt son côté jeune, craquant et vert que je voulais dévoiler dans le parfum. Donc, je ne pouvais pas utiliser l'huile essentielle de céleri. Mais c'est ça la magie du parfum, c'est qu'on peut interpréter des choses à travers d'autres notes. La coriandre faisait très, très bien pour le feuillage du céleri. Le vétiver, comme je vous ai dit, pour le côté fibreux. Et le galbanum, qui est une note très, très, très verte, ça venait chercher le côté craquant du céleri. Et c'est comme ça que j'ai créé le céleri. Avec une note de pamplemousse aussi qui vient rejoindre le côté très vert et très vétiver du parfum.
J'essaie de m'imaginer, de vous imaginer en train de travailler. Est-ce que c'est un travail très solitaire, celui de parfumeur?
Très, très solitaire, ben, surtout pour moi, là, vraiment, faut que je me plonge à l'intérieur de moi, là, pour vraiment me concentrer, puis de sentir, puis de progresser dans un parfum. Ça doit être très difficile. Je sais que ça se fait des parfums en groupe, ben, peut-être à deux, là. On voit ça un petit peu plus souvent dans les grandes sociétés, mais pour moi, c'est vraiment un travail de solitaire, seul avec mon orgue à parfum, toutes mes notes de parfumerie. Et puis, des fois, c'est même très spontané. Quel ingrédient me tombe sous la main à un certain moment, ben, va peut-être décider qu'est-ce qu'il y a dans mon parfum, des fois.
Faut être passionné.
Oui. Puis, faut pas lâcher notre idée de départ qui devient notre but ultime, là. Faut toujours y revenir pour, on dirait, resserrer un peu, là, notre composition.
Là, j'ai envie que vous nous fassiez voyager un peu en cette période de confinement où on prend plus souvent l'avion. J'aimerais ça que vous nous parliez du vol 870 Yule CDG, donc Montréal Charles de Gaulle. Le nom du parfum m'a accroché, évidemment.
Oui, ben ça c'est un moment dans ma vie que je ne veux jamais oublier. Dans le fond, c'est le vol que j'ai pris pour commencer ma nouvelle vie quand je suis allée étudier la parfumerie en France. Donc, je trouvais ça intéressant de partir de mon univers, mes racines québécoises. Et donc, c'est un départ tout en sapinage dans le parfum. Et tranquillement, le parfum va vers des racines européennes, vieux continent, résine, musc. Et puis, ben, au-dessus des nuages, c'est le soleil, c'est Donc, tout est possible. Donc, j'ai mis une note de ylang-ylang, une note d'osmanthus, un peu fruité, avec de la bergamote. Donc, il passe du sapinage vers des notes plus européennes, si on veut, pour créer là, mon expérience de changer de vie et de me retrouver en France pour étudier la parfumerie.
Là, je vais vous poser une question. Mon coup de cœur à moi, j'en ai eu quelques-uns avec vos odeurs, c'est l'eau fraîche. C'est quoi son histoire à celui-là?
Son histoire, c'est tout simplement la chimie qui s'opère entre le vétiver et la verveine. C'est une résonance que j'adore et puis j'ai voulu capturer cet accord-là, un peu comme ça devient la colonne, mon sillage, qui est là, un peu à la base de ma marque et puis ensuite, il y a tous mes voyages.
Qu'est-ce qu'il faut comme qualité ou comme attribut ou comme talent pour devenir parfumeur, pour être parfumeur?
Ben, pour être parfumeur comme tel, je pense qu'il faut aimer les odeurs, il faut vouloir travailler à exercer son nez, à en connaître le plus de notes possible, comment elles s'interprètent dans les parfums. Pour être parfumeur indépendant, ben là, ça prend tout le côté vouloir avoir la liberté de créer ses propres œuvres, si on veut, mais aussi avoir un peu la fibre entrepreneuriale pour mettre ça en place au niveau entrepreneurial.
On va retourner voyager, on va faire un tour du côté de Ipanema.
Oui, ben, Ipanema Porto Novo, c'est en fait, je suis allée faire un projet d'aide internationale à Rio, au Brésil. C'est sûr que ça a été un choc culturel, mais aussi toute l'ouverture vers une nouvelle culture, un nouvel environnement. Tous nos sens sont éveillés hein, quand on voyage, puis qu'on se ramasse dans un lieu qu'on ne connaît pas. Donc, on dirait que ça vient saisir des moments de vie qui sont importants pour tout le monde en voyage. C'est qu'on tous nos sens sont allumés. Donc, c'est normal qu'on s'en rappelle un peu plus intensément. Et puis, ben à Rio, j'ai décidé de créer un parfum avec en son cœur, la fleur d'orchidée, parce que j'étais allée au Jardin botanique de Rio, il y avait un beau sanctuaire d'orchidée. Puis en parfumerie, c'est assez intéressant parce que l'orchidée ne sent rien comme telle, mais c'est une lubie de parfumeur d'avoir créé un accord autour de l'orchidée qui est plutôt sensuel et exotique, un petit peu cliché là dans toutes ses notes, mais qui crée une note qui n'existe pas vraiment dans la nature, mais qui existe au niveau du métier de parfumeur, une note qui est créée autour de la rose, l'anis, mais aussi les épices et la noix de coco, évidemment, qui vient chercher le côté un peu plus sud et exotique de la chose. Et puis, avec ça, c'est le cœur du parfum. Et puis, évidemment, j'ai ajouté un effet très frais de bord d'océan et une note un peu d'encens, de cèdre et d'encens à cause du cristaux là, qui trône autour de la ville, qui vient chercher le côté plus religieux de la ville de Rio, qui est très croyante dans ses valeurs. Et ouais, c'est ça, c'est un petit peu comme ça que l'inspiration vient. C'est parfois des ingrédients qu'il y a sur place ou des fois c'est ma façon de voir l'endroit puis les possibilités que je peux lui donner avec les notes qui sont à ma disposition.
Vraiment, Isabelle, ça me fascine de voyager avec vous. Je me ferme les yeux, je vous écoute, là, puis je me vois dans ces endroits exotiques et différents. Comment est-ce qu'on choisit un parfum à part le fait qu'on l'aime? Est-ce qu'il y a d'autres critères dont il faut tenir compte?
Ben, faut tenir compte du critère du temps sur la peau, parce que souvent, on voudrait nous faire croire qu'on peut choisir un parfum rapidement sur le coup de l'émotion, mais étant donné que le parfum, c'est quelque chose de vivant sur la peau et qu'il y a une progression lente sur la peau, ben, il faut prendre le temps d'essayer, parce que ça arrive souvent qu'on a des surprises, des bonnes ou des mauvaises. On met un parfum, on l'aime au départ parce qu'on aime ses notes de tête, mais après ça, il devient autre chose dans une heure sur notre peau et c'est là qu'il faut savoir si on l'aime dans une heure sur notre peau ou non. Parce que là, c'est là qu'on va voir les notes boisées, les notes sucrées vont ressortir sur la peau plus tard. Et donc, faut se donner le temps de l'essayer. Puis, souvent, il y en a des gens qui trouvent ça très difficile de trouver un parfum parce qu'il y en a, ça tourne, il y en a qui pensent que ça tourne sur leur peau, mais l'exercice d'en essayer plusieurs est important juste pour trouver celui qui convient le plus. On peut penser qu'on aime les parfums satisfaits, mais finalement, ça nous tombe sur le cœur après un bout de temps. Donc, en ce moment-là, il faut essayer un parfum plus frais, un parfum plus floral, un parfum épicé, puis il faut voir là qu'on aime le porter, est-ce qu'on se sent revivre quand on porte le parfum, tu sais, faut que le parfum nous apporte quelque chose, c'est sûr.
Vous, quand vous promenez, vous sentez les gens, est-ce qu'à travers le parfum, les odeurs que vous sentez, vous êtes capable de, pas de deviner, mais d'avoir une idée de la personnalité de la personne? Est-ce que certaines personnes qui sont plus tel genre ou autre?
Peut-être pas le genre de la personne, parce que c'est ça, à travers la parfumerie, il y a tellement un monde intérieur qui est dévoilé à travers le parfum. C'est difficile extérieurement de savoir ce que la personne aime vraiment. C'est sûr que si je sens un parfum, un parfum qui va être très opulent, ben je vais peut-être dire que cette personne a une bonne confiance en elle parce qu'elle ose porter quelque chose qui est très présent. Mais en général, je peux pas dire que ça m'en dit tellement. Peut-être ça m'en dit sur l'époque où ils ont grandi, parce que souvent, on reconnaît des odeurs là, qui étaient des bons vendeurs dans les années 80 ou les années 90 ou les années 60 ou tout dernièrement. Il y a des parfums qui sont très à la mode en ce moment, puis on peut les reconnaître. Donc, je peux dire, ah, ben, cette personne-là, oui, elle aime ce parfum-là, mais elle aime suivre les tendances, des choses comme ça. Il y en a qui sont plus rares, tu vois, qui sont plus racées, qui ont pris le temps de trouver un parfum qui n'est pas nécessairement très connu.
On va faire un autre petit voyage avec le Dupont Circle. Il vient d'où, celui-là?
Dupont Circle, c'est un... Avant ma vie de parfumeur, j'ai tellement eu... Tu sais, j'ai commencé ma carrière de parfumeur plus à l'âge de 35 ans. Donc, j'ai eu presque quelques vies avant de devenir parfumeur. Donc, quand j'étudiais la traduction, j'ai fait un stage au Fonds monétaire international à Washington, D.C. Je m'étais trouvé une chambre à Dupont Circle, le quartier historique de Washington. Et c'était une période très intéressante, encore en voyage, mais j'étais tombée amoureuse. Et puis, c'était une période où on touche presque pas les pieds à terre, là, tellement c'est une nouvelle vie, une nouvelle ville, un nouvel amour. Une ville qui était très vibrante parce que c'était les années Clinton où tout était possible. Et donc, c'est ce que j'ai traduit à travers ce parfum-là. L'amour à travers la rose, ça peut faire cliché, mais c'est ce que je voulais interpréter au niveau de l'amour. Puis avec un parfum avec de la mousse de chêne pour me tirer un peu vers le bas tellement j'avais la tête un peu dans les nuages. Donc, c'était ma façon d'interpréter cette période-là dans ma vie avec une note de poire, un peu de menthe en tête et un effet chypré avec du patchouli dans le parfum aussi.
Présentement, est-ce que vous êtes, est-ce qu'un parfumeur, c'est toujours en train de développer ou de vouloir créer des nouveaux parfums?
Oui, oui, il y a toujours, il y a tellement d'idées qui nous passent par la tête. Là, j'en ai 8 présentement dans ma collection. Il faut toujours décider là où est-ce que je veux amener ma marque parce que il y a la possibilité de créer des nouvelles collections. Donc, je suis toujours en train de penser. C'est sûr que j'ai une gamme de produits dérivés aussi à laquelle je pense aussi. Mais globalement, j'essaie de créer un peu un équilibre dans ce que je présente pour pas toujours montrer les mêmes notes. Donc, j'essaie de diversifier là, le style de parfum que je vais faire, mais c'est sûr que je vais toujours donner un peu ma griffe à mes parfums parce que mon nez guide mes créations. Mais oui, il y a toujours une création en tête. Il faut juste prendre le temps de s'asseoir à la table de création puis de passer à l'attaque. Parce que créer, c'est aussi douter. Et il faut se confronter à ce qu'on est capable ou on n'est pas capable de faire. Et puis, ça nous remet beaucoup en question, une création.
Oui, il y a des impasses aussi. Il y a des moments où on ne sait pas pantoute où ça va aller.
C'est ça, c'est ça. Puis, des fois, on veut éviter ces moments-là. Puis, on fait un petit peu de procrastination. Mais en bout de ligne, ça nous fait toujours faire un pas en avant. Et puis, quand je suis à la table de création, suis en train de créer, ben ça m'amène des nouvelles idées pour des futures créations ou des nouveaux apprentissages qui vont me servir plus tard. Donc, c'est un processus nécessaire, mais des fois qui est pénible.
Avant de vous quitter, j'aimerais ça que vous nous racontiez une dernière histoire, celle peut-être du Aviation Club.
Oui, ah ben ça montre une autre facette de ma vie. Ben c'est encore en France quand je suis allée étudier, mais je suis une j'ai eu une époque où je jouais au poker amateur et j'avais commencé à Toronto. Et puis quand j'ai vu que j'allais en France, j'ai dit je vais trouver une salle de poker à Paris. Puis je suis tombée sur l'Aviation Club de France, qui est une salle mythique de poker à Paris, qui n'existe plus d'ailleurs. Mais quand je suis allée là, ben là, j'ai eu l'idée de créer Aviation Club parce que c'était l'époque où il n'y avait pas encore de règles sur la fumée dans les établissements en France. Déjà, au Canada, ça faisait longtemps qu'il y en avait des règles de ne pas plus fumer à l'intérieur, mais là-bas, ça fumait encore beaucoup. Donc, la salle de poker était remplie de fumée. Et c'était une atmosphère très, très masculin parce qu'il y avait très peu de femmes. Mais c'était excitant. C'était les nuits blanches. C'était les tables feutrées là, de poker. Donc, c'était une salle qui était très, très élégante aussi. Un ancien club d'aviateurs transformé en cercle de jeu. Et donc, ça m'a inspiré un parfum avec des notes très masculines. C'est le parfum le plus masculin de ma marque, avec des notes de tabac, de cuir, de résine, de café aussi. Mais aussi très vert, légèrement floral, puis aussi très épicé.
Probablement très différent du tilleul d'Amérique.
Ah oui! à l'opposé, je dirais. D'ailleurs, le tilleul d'Amérique, c'est un parfum dans l'huile. Donc, déjà, l'huile, c'est plus pesant, c'est moins volatile. Donc, ça tire le parfum beaucoup plus près de la peau. Et donc, le tilleul d'Amérique, c'est un parfum en l'honneur un peu des rues de Montréal. Il y a beaucoup de tilleuls. Dans le fond, c'est un parfum, je dirais, urbain, parce qu'il y a beaucoup de villes du monde qui ont choisi de planter des tilleuls, étant donné la robustesse des arbres, mais aussi facilement adaptable à différents climats, mais qui donne une fleur qui est magnifique, qui sent bon pendant peut-être une semaine, parce que ça ne dure pas très, très longtemps. Puis c'est ça, c'est un petit peu un hommage aux rues de Montréal, parce qu'il y en avait un à côté de chez moi. Mais ça partie d'une genre de collection dans l'huile que je vais faire grandir dans le temps. Mais pour l'instant, il y en a juste un dans l'huile comme ça.
Là, je suis en train de me rendre compte qu'on a fait le tour de tous vos parfums à part Route du Quai. Je me dis, bon, si bien faire du sport de l'huile aussi.
Route du Quai, c'est une de mes nouvelles collections, les routes mon sillage. Donc, il va y avoir trois routes. Donc, la première, c'est la Route du Quai. Et ça me fait retourner aux étés de mon enfance parce qu'on avait un chalet familial à Rivière-Ouel dans le coin de Kamouraska. Et pour aller au chalet, il fallait prendre la route du quai. Puis la route du quai, c'était l'arrivée au chalet, c'était l'effervescence des vacances d'été, c'était le bord du fleuve, c'était la nature. Donc, c'est un parfum qui représente un peu mon enfance sur le bord du fleuve de Rivière-Ouel.
Finalement, à regarder, à sentir et vous écouter parler de vos parfums, on a des bouts de l'histoire de votre vie.
Oui, tout à fait, tout à fait. Je suis une personne... justement, qui est très réservée, qui aime pas vraiment beaucoup parler de moi dans des échanges entre amis ou je suis vraiment quelqu'un d'introverti. Mais à travers mon entreprise, ben, c'est là que je me dévoile, à travers ma marque de parfum. C'est là que je raconte un peu mes histoires de vie.
Merci Isabelle, c'est vraiment inspirant de vous écouter, c'est riche. Pour les gens qui voudraient en savoir un peu plus sur vous, où est-ce qu'on peut trouver vos parfums puis comment est-ce qu'on peut vous suivre?
Ben, j'ai un site web, monsillage.com, qui va vous donner toute la liste de mes points de vente. J'en ai une vingtaine en ce moment. Il y en a beaucoup à Montréal, mais il y en a deux à Québec, il y en a quelques-uns en région. Et puis, au Canada anglais aussi, un peu aux États-Unis. Et là, donc, vous pouvez aller voir mes points de vente. Vous pouvez acheter un ensemble d'échantillons en ligne pour découvrir ma collection. Vous pouvez me suivre sur Instagram ou sur Facebook. Et puis, vous allez avoir là, les nouvelles mises à jour. Je suis pas très, très active, là, mais il faut que je travaille là-dessus.
Est-ce que dans vos projets, vous visez d'étendre votre marché?
J'y vais très graduellement. C'est sûr que comme je suis à la tête de mon entreprise, là, je porte tous les chapeaux, puis ce chapeau-là, c'est pas nécessairement une grande force, mais disons que je suis rendue à un moment où il y a certains gens qui sont certaines personnes qui sont curieuses de mon produit, donc ils se proposent comme point de vente, et puis là, ben, ça me permet d'élargir mon marché tranquillement, organiquement, si on veut. Là, je suis moins du genre à pousser là, les limites des marchés, là. Tranquillement, mais sûrement, il y a toujours un nouveau point de vente qui s'ajoute, puis ça fait son chemin.
Merci Isabelle pour votre temps, votre générosité et pour ces délicieuses odeurs que vous créez.
Ben, merci de vos super questions et le temps qu'on a eu aussi pour développer tout ça.